Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes du Canal M qui vous propose son kiosque magazine du 1er juin qui a des allures de 1er mai ou même de 1er avril aujourd'hui.
Oui, mais ça va changer vite, vous allez voir.
C'est sûr.
Ah ouais.
Alors, en studio, devant les micros, Franceline Nieuviat. Bonjour.
Oui,
Franceline.
Bonjour Roger, bonjour oui. Serge.
Serge à ma droite.
Bonjour, oui, Serge. Bonjour Roger Roy.
Oui, oui, oui. Et celui qui va nous guider, nous accompagner pendant l'heure qui s'en vient, c'est Mathieu Tessier.
Lui-même en personne.
Oui, c'est un nouveau Manitou qui manie tous les boutons là, Roger.
Qui manie tous les boutons.
C'est ça. Alors, nous sommes là encore pour vous,
pourtant,
pour vous sortir,
pas
pour vous, hein, pour vous présenter des textes que nous avons recueillis
oui.
dans des magazines qui traitent de culture et de société.
Hein. Oui.
Et Serge et Franceline, pardon, qu'avez-vous
Madame
vous
d'abord,
aujourd'hui?
Madame.
Oui, oui. Mais écoutez, juin, pour moi, c'est le mois de mon anniversaire de naissance, alors ça a dû influencer le choix de mes articles, les articles que je vais lire ce matin. Le premier s'intitule « Pourquoi cacher son âge ?» C'est écrit par Jacqueline Simoneau dans Le Bel Âge de juin 2015.
Nous saurons tout.
Oui, je ne vous le dirai pas. Et le deuxième, c'est « J'affirme mon âge » par Julie Stanton. Le Bel Âge juin 2015, ce sont des petits témoignages de personnalités médiatiques à propos de leur âge.
Bon, allez-vous la cacher, vous, votre âge, ou si vous allez l'affirmer
Alors,
c'est ce que nous saurons. Eh bien, moi, ça ne sera pas à pas. C'est de la course à pied.
La course à pied.
Oui, ça, c'est intéressant. Et puis après ça, c'est pas mon genre.
Ah bon?
Ah! Ah!
Moi, je vous parle de personnes qui ont eu un parcours assez particulier. Ce sont des souffrances que ces personnes ont endurées, oui. De sans-abri à diplômé et ensuite l'inébranlable optimiste. Mais pour l'instant, un texte que je suis allé lire dans l'actualité du 15 juin, Cuba, ce qui va changer. C'est le titre que la journaliste Hélène Dubilly donne à son papier qui paraît dans cette édition donc du 15 juin. Il s'agit du compte-rendu d'une entrevue qu'elle a faite avec Jaime Ortega.
C'est bien dit, hein?
Archevêque catholique de La Havane. J'ai bien pratiqué avec l'aide de Serge avant de le prononcer, oui. Alors, elle écrit ceci en introduction. « Sacré cardinal par le pape Jean-Paul II en 1994, cet amateur de baseball qui a terminé ses études de théologie à Montréal » règne sur une église en reconstruction, mais toujours sous surveillance. Évidemment, c'est à Cuba. Se décrivant comme un produit de l'esprit missionnaire de l'Église québécoise, le cardinal Ortega, 78 ans, est parvenu à s'imposer à titre d'interlocuteur privilégié du gouvernement de Raúl Castro grâce à une prudente politique des petits pas. Polyglotte, outre l'espagnol, il parle couramment le français, l'anglais et l'italien. Proche du Vatican, il a joué un rôle important dans les discussions qui ont mené au dégel des relations diplomatiques entre son pays et les États-Unis. Malgré ses efforts pour rester au-dessus de la mêlée, il est régulièrement traité de laquais du régime par les anticastristes de Miami. Aussi, lorsque le pape François mettra les pieds sur le sol cubain l'automne prochain, le prélat pourra souffler un peu. François, premier pontife latino-américain, risque d'avoir un effet déterminant sur la réconciliation prônée par l'évêché cubain depuis 10 ans. Pas mal pour un chef religieux qui a vu nombre de ses églises détruites dans le passé et dont une partie de ses concitoyens semble ignorer l'existence de cette église. Question qu'on lui pose. Quel rôle avez-vous joué dans le rapprochement entre les États-Unis et Cuba? À la fin de 2013, une spécialiste des relations cubano-américaines est venue me voir à La Havane. Auteur de plusieurs livres sur Cuba, Julia Swegg, estimait que le climat à la Maison-Blanche était favorable à un déblocage des relations entre les États-Unis et Cuba. Elle m'a proposé d'établir une médiation avec le Vatican. J'ai donc communiqué avec le pape François et nous avons discuté. Question. Vous appréciez le pape François beaucoup. Il a eu la délicatesse de me raconter comment s'était déroulé son entretien sur Cuba en mars avec le président Obama. Selon le Saint-Père, sur la possibilité de lever les sanctions économiques, Obama aurait répliqué que cette action relevait du Congrès. Ils ont ensuite abordé la question des prisonniers, mais Obama hésitait encore. Alors le Saint-Père a eu un argument décisif. Non seulement la levée de l'embargo économique, a-t-il dit, profiterait au peuple cubain, mais elle jouerait également en faveur de l'image des États-Unis en Amérique latine, où la politique américaine à l'égard de Cuba est rejetée de façon unanime. Le pape m'a rapporté que le président est alors devenu très méditatif. On voit donc que l'Église peut encore peser dans la balance lorsqu'il s'agit d'obtenir un accord de paix entre deux pays. Question. Vous sentez-vous libre d'aborder des sujets de votre choix lorsque vous prononcez vos homilies le dimanche à la cathédrale de San Cristobal, ça c'est à La Havane, Oui, toujours. De toute façon, de quoi parle un homme d'Église? De Dieu. Après la Révolution en 1959, Cuba est devenu un pays officiellement athée, c'est-à-dire que l'athéisme scientifique a été inscrit dans la Constitution. Pendant 30 ans, Noël est disparu du calendrier officiel. Noël est redevenu fête après la visite de Jean-Paul II en 1998. Les membres du Parti communiste ne pouvaient appartenir à une quelconque religion, c'était interdit. Il y a eu des confiscations de propriété, des expulsions, mais qu'est-ce qu'on pouvait y faire? D'un autre côté, notre situation a toujours été préférable à celle qu'ont connue les pays du bloc de l'Est en Europe. Nous n'avons jamais été coupés de Rome et on a eu droit à la liturgie dans notre langue. Que faut-il conserver du modèle cubain? D'abord, une éducation gratuite à tous les niveaux et un système de santé publique gratuit et universel. Pour le peuple cubain, il ne saurait y avoir de compromis là-dessus. Je vais ajouter l'assistance sociale, même si elle est déficiente à cause de la pauvreté du pays. On ne peut pas dire que les gens sont totalement démunis dans la société cubaine. Il n'y a pas de misère extrême. Autre question. À une question qu'on lui posait, il avait répondu « Les vieilles chevrolettes qui circulent et les décapotables, c'était des vieux chars qu'on a complètement transformés. » Alors, la journaliste prend le mot « char » au vol et dit « Vous avez parlé de chars. Avez-vous été heureux au Québec? » Il dit « Oui, très heureux. Vous savez, quand j'étais jeune, durant les années 1950, les missionnaires québécois, hommes et femmes, se comptaient par plusieurs dizaines à Cuba. » Ils sont arrivés avant la révolution de Fidel Castro et sont restés après, en vivant pauvrement, comme tout le monde. Les Québécois savaient mener une mission. Pour beaucoup d'entre nous, ils ont été un exemple. C'est pour cette raison qu'on m'a envoyé faire ma théologie au séminaire des missions étrangères à Montréal. De 1960 à 64, j'y ai vécu des années de bonheur. Je me souviens que durant les vacances d'été, mes confrères m'invitaient à faire les foins en famille. Le soir, les vieux racontaient des histoires. Et tout le monde chantait 1, 2, le ciel est bleu.
Le ciel est bleu.
Réveille-toi.
Réveille-toi.
C'est un jour nouveau qui commence. Le ciel est bleu.
Le ciel est bleu.
Bon, en tant que chef de l'Église cubaine, quelle sera votre position maintenant qu'un jour nouveau commence pour votre pays? Il dit, le seul chemin pour nous est le dialogue, rien d'autre. L'Église n'est pas dans le monde pour changer les gouvernements, mais pour pénétrer le cœur des hommes avec l'Évangile. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous dire ce qui va changer à Cuba, pourtant c'est le titre de l'article, et on va les donner, c'est ce qui va changer après les accords entre Cuba et les États-Unis. Ouverture d'une ambassade américaine à La Havane et retrait de Cuba de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme, c'est fait, là. Assouplissement de certaines restrictions de voyage, notamment en ce qui concerne les visites familiales. Reprise du commerce avec des entreprises cubaines dans les secteurs de matériaux de construction et de l'équipement agricole. Et ensuite, possibilité pour les banques américaines d'ouvrir des comptes dans des banques cubaines pour faciliter notamment les transferts de fonds.
Alors maintenant, pourquoi cacher son âge? Personne ou presque ne connaît votre âge. Vous le dissimulez habilement ou vous en retranchez sans vergogne quelques années.
Et ceux si qui viennent de chanter, là, ont manifesté un peu leur âge.
Et oui. Si vous faisiez enfin la paix avec le nombre de vos années? Autrefois, on dirait qu'il ne fallait jamais demander son âge à une dame. C'était impoli. De nos jours, cette pudeur n'existe plus. On risque tous de se faire poser la question, et ce, plus d'une fois. À 20, 30 et même 40 ans, c'est facile d'y répondre. Après la cinquantaine, et plus encore après la soixantaine, notre rapport avec l'âge change. Souvent, on commence à éprouver un certain malaise à divulguer l'année de notre naissance. Et si plusieurs la dévoilent du bout des lèvres, d'autres choisissent carrément de la trafiquer ou de la taire. Ainsi, peu de gens connaissent l'âge véritable de Micheline. Elle dit « Je ne révèle jamais mon âge. Lorsque quelqu'un aborde la question, je fais comme si je n'avais pas entendu et je fais dévier la conversation sur un autre sujet. » Orphelin et enfant unique, Paul berne tout le monde. Au début de la cinquantaine, j'ai développé une peur de vieillir et de perdre mon emploi, avoue-t-il. L'entreprise venait d'engager plusieurs jeunes et je craignais de ne plus être dans le coup. Je ne voulais surtout pas être étiqueté de vieux. Alors, j'ai commencé à mentir sur mon âge. Je sais bien que je vieillis quand même, mais c'est plus fort que moi. Constat semblable du côté d'Anne, je vais jusqu'à refuser d'être fêtée pour ne pas avoir à répondre à l'inévitable question sur mon âge, précise-t-elle. Eh oui, ce déni du passage du temps est rarement anodin. Petite coquetterie, assurément, mais il y a plus. Ce pieux mensonge traduit souvent un profond malaise, conscient ou non. De nos jours, on note un grand inconfort par rapport au vieillissement, constate la psychologue Stéphanie Léonard. Déjà, à partir de la quarantaine, les femmes, mais aussi de plus en plus d'hommes, deviennent particulièrement soucieuses de leur apparence. Et plus elles vieillissent, plus elles ressentent la pression du corps parfait et de la jeunesse, associée à la réussite professionnelle et sociale. L'estime de soi est encore largement basée sur ces critères. Comme si le fait de vieillir était quelque chose de péjoratif, d'anormal. Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi certaines personnes refusent de vieillir et choisissent de ne pas dévoiler leur âge. Mais le désir de rester jeune physiquement n'explique pas tout. Pour certains, vieillir est aussi associé à la crainte de perdre leur pouvoir de séduction, de ne plus être aimé, d'être jugé en fonction de leur âge plutôt que de leurs compétences, de voir le regard des autres changer ou encore de perdre des amitiés plus jeunes. En réalité, ils projettent leurs craintes sur les autres, croyant à tort ou à raison que ces derniers pensent comme eux. Selon le psychologue Camillo Zacchia, si certaines personnes mentent pour influencer la perception des autres à leur sujet, elles le font aussi parfois pour modifier inconsciemment la perception qu'elles ont d'elles-mêmes. Comme si le fait de ne pas dévoiler leur âge constituait une forme de protection contre le vieillissement et ses aspects plus sombres comme la maladie, la perte d'autonomie, la vulnérabilité et le début de la fin. Il arrive qu'une telle attitude soit profondément ancrée. Louise a longtemps menti sur son âge. « Je me refusais d'entrer dans la soixantaine. Je suis donc restée une éternelle quinquagénaire, jusqu'à ce que j'en découvre la raison lors d'une thérapie. Mes parents sont tous deux décédés au début de la soixantaine. Inconsciemment, je refusais de franchir ce cap de peur de mourir à mon tour à cet âge. » L'avènement des médias sociaux où il est facile de trafiquer son âge contribue aussi au phénomène. Le geste est jugé de plus en plus banal, même chez les jeunes, c'est tout dire. Alors comment rétablir la vérité? On le sait fort bien, même en décidant de garder pour soi le nombre de ses années, les chiffres du compteur continuent à tourner, qu'on le veuille ou non. Notre âge fait partie de notre identité, rappelle Stéphanie Léonard. En le niant ou en le truquant, c'est comme si on effaçait une partie de soi. Puis, ce n'est pas si simple de mentir sur son âge. Il faut faire preuve d'une vigilance de tous les instants pour entretenir le mystère. Par exemple, il ne faut surtout pas révéler l'âge de ses frères et sœurs si l'on ne veut pas qu'un petit futé découvre par déduction le pot aux roses. On ne doit pas non plus donner d'indices en racontant des événements du passé. Il faut aussi se rappeler à qui on a dit quoi. C'est stressant. D'autant que les gens ne sont pas dupes. Généralement, l'entourage sait que la personne ment sur son âge, ce qui peut donner lieu à des moqueries ou même à une perte de confiance envers elle. Dissimuler son nombre d'années, ce n'est pas avantageux non plus. Trop souvent, les spéculations se font à notre détriment. Au lieu de taire votre âge ou de faire croire que vous avez 50 ans au lieu de 60 bien comptés, pourquoi ne pas montrer qu'à 60 ans, on peut être beau, plein de vie et de projets? Aussi étrange que cela puisse paraître, une fois que j'ai décidé de faire le saut et d'avouer mon âge réel, ça m'a fait un bien fou, à vous, Louise. C'est très libérateur de s'assumer. Alors, 5 trucs pour arriver à dire et à mieux accepter son âge. Le premier, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vieillir est-il pour moi une réalité difficile à affronter? Y répondre est un premier pas vers l'acceptation. Deuxièmement, n'évitez pas le sujet. Lisez des livres, des articles au sujet de l'âge et discutez-en avec des gens autour de vous afin de connaître leurs opinions. Nommez votre malaise, il prendra automatiquement moins de place. Trois, cultivez l'estime de vous-même. Rappelez-vous que la vraie beauté est affaire de charme, de charisme, de présence, d'énergie, d'aisance, de bien-être, de façon de penser et de percevoir les choses, bien plus que de perfection plastique, fragile et éphémère. 4. Découvrez les bons côtés de l'âge. En vieillissant, on se connaît mieux, on a moins de choses à prouver, on dispose de plus de temps, on profite plus des plaisirs de la vie, on est plus expérimenté et plus sûr de soi, on est plus à l'écoute des autres. Acceptez vos limites et profitez le plus possible de ce que la vie vous offre, puis mettez de l'humour dans votre existence. Il aide à dédramatiser toutes les situations, même celles qui sont liées à l'âge. Enfin, affichez fièrement vos couleurs, on éprouve un réel sentiment d'authenticité à dire « j'ai tel âge, voilà où j'en suis », fait remarquer Stéphanie Léonard. En fait, ce n'est pas l'âge qui repousse les gens, mais notre personnalité ou notre façon d'aborder la vie. On est jugé en fonction de ce que l'on est plutôt qu'en fonction de notre âge. Voilà, c'était Jacqueline Simoneau qui écrivait cela dans Le Bel Âge de juin 2015.
Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté les mêmes vins. On a chanté les mêmes filles. On a chanté les mêmes chagrins. Adieu les mille, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans ton trou. Adieu curé, je t'aimais bien. Adieu curé, je t'aimais bien. Tu sais, on n'était pas du même bord, on n'était pas du même chemin, mais on cherchait le même port. Adieu curé, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son confident, je sais que tu prendras soin de ma femme. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien, tu sais. J'en crève de crever aujourd'hui. Alors que toi, tu es bien vivant et même plus solide que l'ennui. Adieu l'Antoine, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son amant, je sais que tu prendras soin de ma femme. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans ton trou. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Tu sais, je prends le train pour le bon Dieu. Je prends le train qu'avant le tien. Mais on prend tous le train qu'on peut. Adieu ma femme, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme. Car vu que je les ai fermés souvent, je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans ton.
Bon alors, quel âge aurez-vous, Franceline?
Eh ben, 70 ans dans deux ans.
Arrêtez donc, mon Dieu, paraît pas ça. Paraît, c'est pas ça la radio. C'est un roi, un ex-roi de France, hein, qui a parlé de 70. Il voulait pas dire qu'il avait 70. Alors, il a dit, j'ai 60 plus 10. Ah. 70, c'est de là que vient l'expression 70.
Ah, c'est vrai. Hein?
Oui,
c'est
Et quand bien. Certaines personnes ont... 60, ils n'osent pas dire qu'ils ont 60. Pourquoi ne pas dire 3-20?
3-20.
Oui, 3-20. On a toujours 20 ans, finalement, mais trois fois. Et les gens disent, comment ça, 3-20? 3-20, j'ai quand même pas 80. Merci. Voyez-vous, on utilise le terme 80, mais pas 3-20. Alors, voilà.
Moi, je préfère 70, c'est bien plus.
70, bon, d'accord, on comprend pas ce que c'est, donc c'est bon.
OK.
Alors, pas à pas, le jogging est une activité qui réclame peu d'équipement et de temps et pour en retirer tous les bienfaits et conserver la jeunesse, sans malmener votre corps, il vous faut suivre quelques règles. Bon, alors ne faites pas comme les Éthiopiens, ne courez pas à pied, pieds nus. C'est beau? Surtout pas à Montréal avec les trous. En 2014...
Mais les trottoirs seront bientôt chauffés.
Bientôt, bientôt.
Sur la rue Sainte-Catherine.
Oui, seulement. OK. Près de 250 000 coureurs en 2014 ont franchi la ligne d'arrivée d'une épreuve québécoise de course à pied chronométrée, soit plus du triple qu'il y a 5 ans. Un chiffre qui illustre bien la montée en popularité du jogging. Il n'y a d'ailleurs qu'à regarder autour de soi pour trouver un adepte. Si je parle de ça, c'est que l'été arrive, le beau temps arrive et les gens...
Ça ne paraît pas aujourd'hui, Serge.
...sortent pour courir. Non, mais demain. Comment expliquer un tel engouement? C'est un sport accessible et pratique. Il suffit d'avoir une paire d'espadrilles et de sortir de la maison. On peut le pratiquer partout, même en voyage, résume Alain Dufort, éducateur physique et responsable des achats de chaussures à la boutique Courir à Montréal. Un avantage indéniable, puisque les Québécois évoquent surtout le manque de temps pour se justifier de ne pas bouger. La course est l'activité qui rapporte le plus au système cardiovasculaire par rapport au temps investi, ajoute-t-il. Elle convient donc parfaitement aux gens pressés qui peinent à caser 30 ou 45 minutes de sport trois fois par semaine dans leur horaire surchargé. Courir chasse le stress, améliore l'humeur et la qualité du sommeil. C'est aussi une façon de diminuer vos risques de développer une maladie cardiovasculaire et de l'ostéoporose et de prévenir le diabète de type 2, ainsi que certains cancers, colon, sein, utérus, endomètre. Une activité physique régulière permet en outre de réduire le mauvais cholestérol, LDL, tout en augmentant le bon, HDL, d'abaisser la tension artérielle, de ralentir le déclin cognitif, de préserver la masse musculaire et de contrôler le poids et la glycémie. Il n'y a pas d'âge pour profiter de ces bienfaits. Aujourd'hui, les septuagénaires qui participent à des marathons ne sont plus l'exception.
Ah non?
Ah non. Le jogging présente cependant un risque important de blessures musculo-squelettiques à cause des contacts répétés sur le sol, met en garde le kinésiologue Martin Lucier, co-auteur du livre « Mythes et réalités sur la course à pied ». Dès leur début, les gens veulent s'entraîner trop fort, trop souvent et trop vite, note pour sa part Bert Barcelos, gérant de la boutique Endurance à Montréal. Mais je ne pense pas qu'il y ait plus de blessures à la course qu'au tennis ou dans d'autres sports d'impact. Le secret, selon les experts que nous avons rencontrés, résiderait dans le choix des chaussures, c'est sûr, ce sont des vendeurs de chaussures, et dans une bonne planification de l'entraînement. Nous avons réuni quelques trucs et conseils qui vous permettront de vous élancer sur les pistes sans vous blesser. OK? Vous pouvez pratiquer le jogging à tout âge, quelle que soit votre condition physique de départ. C'est pas compliqué. Vous avez entendu dire que les impacts répétés étaient mauvais pour les genoux, le dos et les hanches, et que le surpoids était un obstacle. Oubliez ça. Courir risque de réveiller des douleurs chez des personnes souffrant d'arthrose sévère, et celles qui ont des kilos en trop pourraient éprouver des difficultés au début. Mais ce ne sont pas des contre-indications, souligne la docteure Diane Lambert, présidente de l'Association québécoise des médecins du sport. La course est à la portée de tous si on commence graduellement et qu'on écoute la douleur de son corps et sa capacité d'adaptation. « Vous avez mal? » Demandez conseil à votre médecin. Rebecca Gagné, physiothérapeute du sport à la clinique Stadium Physio-Ostéo à Montréal, vous recommande aussi, avant de vous lancer, de consulter un médecin. Si vous souffrez de maladies cardiaques pathologiques, d'arthrite inflammatoire, de diabète, vos pieds sont alors plus sensibles que ceux de la plupart des gens. Oh, et ménagez vos genoux, vos pieds et vos jambes. C'est beau? Alors, allez-y progressivement. Ça va? Il y a des règles à suivre. Ben, ça, vous pouvez le constater dans la revue Protégez-vous du mois de juin. C'est tout écrit. Mais ça, il y a une chose que je ne savais pas. Mesdames, ne négligez pas votre soutien-gorge. Hein? La course mène la vie dure à la poitrine des femmes. En 30 minutes, celle-ci bondirait environ 5000 fois, ce qui peut causer de l'inconfort et des douleurs au sein, aux épaules, au dos ou dans le cou. On ne pense pas à ça, hein? Non. Alors, allez-y. Préférez les modèles de soutien-gorge à base d'élastane, combinés à du polyester qu'à ceux en coton. Un matériau qui ne respire pas et qui garde l'humidité. Alors, en plus des bons souliers de course, ça vous prend un bon soutien-gorge. Je ne parle pas à vous, Roger, bien sûr.
Alors maintenant, quelques brèves. Qu'est-ce que l'arsenic? Vous pensez bien au poison, mais vous savez que, ou vous ne savez pas, que l'arsenic est un élément chimique naturel présent dans le sol et l'eau. Il augmente les risques de cancer, poumons et vessies. Le riz absorbe davantage d'arsenic que les autres grains céréaliers. La quantité présente dans les aliments courants n'est pas encore répertoriée, mais de façon préventive, mieux vaut éviter une surconsommation de riz et de ses dérivés.
C'est intéressant. 5 km est une distance de course réaliste et raisonnable après 4 mois d'entraînement. Ça, c'est beau. Faire 10 km est plus ambitieux, mais demeure réalisable. Et 30 minutes d'activité cardio 3 fois par semaine peuvent stimuler votre système immunitaire durant toute la semaine.
Moi, je vous parle de consommation. Attention, chérie, ils ont réduit le bacon. Vous avez l'impression que vous atteignez le fond de votre sac de croustilles plus vite qu'avant, que votre emballage de biscuits en contient quelques-uns de moins et surtout qu'ils sont plus petits et plus minces. Vous n'avez pas rêvé. Plutôt que d'augmenter les prix et risquer de repousser les consommateurs, nombre d'entreprises choisissent désormais de diminuer la quantité du produit offert dans les emballages.
C'est ça.
Quelques grammes de moins de céréales par boîte, moins de tranches de bacon par paquet. Rien n'interdit le sous-dimensionnement, mais ça reste une pratique immorale et trompeuse, dit Lisiane Blanchette, avocate à Options Consommateurs. Surtout que le client, souvent peu vigilant lorsqu'il choisit un aliment au supermarché, ne s'aperçoit pas toujours du subterfuge. Seul moyen à sa disposition pour faire des choix éclairés, consulter les affichettes du prix par unité de mesure.
Et maintenant, boissons de riz, d'amandes, de noix de cajou ou de soja. Plusieurs délaissent le lait au profit des boissons à base de noix. Ces boissons remplacent-elles bien le lait? Oui, à condition qu'elles soient enrichies en calcium et en vitamine D. La boisson de soja a un net avantage, elle apporte beaucoup plus de protéines que les autres, ce qui en fait un choix plus rassasiant.
Vive le soja!
C'est tout. C'est tout.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, nous sommes de retour au Kiosque Magazine consacré à la culture et à la société, celui du lundi 1er mai. Maintenant, je vous parle...
1er mai?
1er juin?
Excusez.
Vous êtes en retard?
Oui, c'est
ça.
C'est parce que
attardé.
J'avais les yeux sur la sélection de Reader's Digest du mois de mai. C'est ce qui a semé la confusion dans mon esprit.
Donc, c'est ça
l'affaire. Hein. Et ce Reader's Digest souligne le courage dont ont fait preuve deux personnes dans des contextes très différents. Tania Saint-Arnaud, qui a vu son existence basculer un soir d'été quand son copain, très gentil, l'a défiguré en l'aspergeant d'un produit corrosif. Et d'autre part, Eric Weisman dont nous parle Charles-Hugo Normand dans un texte intitulé « De sans-abri à diplômé ».
Vous allez nous parler de ça, là?
Oui, tout de suite.
Un
deux textes, comment différence? Un peu, oui, le deuxième surtout. Affalé sur un matelas qui traînait dans son petit studio miteux, Eric Weisman entendit des pas se diriger vers lui. Affaibli par sa consommation d'alcool et de cocaïne, il était certain qu'il s'agissait d'un trafiquant à qui il devait de l'argent venu lui faire la peau. À 34 ans, sa vie était si misérable qu'il s'était résigné à mourir, n'attendant plus que la détonation d'une arme à feu. C'est ainsi qu'il toucha le fond. Heureusement, c'était plutôt sa sœur qui lui rendait visite en larmes. Elle le supplia d'aller chercher de l'aide dont il avait tant besoin. Incapable de supporter une journée de plus dans cet état, il accepta. Le parcours d'Eric Weisman n'a pas toujours été aussi sombre. Étudiant brillant, il a rapidement obtenu un baccalauréat de et une maîtrise à l'Université de Toronto. Il entame ensuite un doctorat tout en travaillant comme auxiliaire d'enseignement dans cette même université, poste qu'il quitte en 1987 pour... ouvrir une galerie d'art. C'est d'ailleurs l'effervescente scène culturelle de la capitale ontarienne qui l'initia aux drogues. En 1989, accro à la cocaïne, il avait perdu sa galerie d'art, abandonné l'université et vivait de l'aide sociale. Lorsqu'il ne consommait pas, il pouvait engloutir jusqu'à 30 Tylenol, tant sa tête et ses sinus lui faisaient mal. En 1995, lorsque sa sœur entra dans son studio, il ne pesait plus que 58 kilos. « Je savais que j'en étais arrivé à un point où j'allais me tuer ou être tué. La vie sans drogue était insupportable. » C'est au centre de désintoxication Buena Vista, on le Rideau, en Ontario, qu'Eric Wiseman a pu mettre un terme à sa dépendance. Il y séjourna 6 mois. À son retour, il se mit à tourner des entrevues avec des sans-abri qu'il avait rencontrés dans un bidonville de Toronto, Tent City. Même s'il s'agissait simplement de documenter leur histoire, son film fut projeté lors d'une exposition au Musée royal de l'Ontario. Cela lui servit de tremplin pour réaliser un vieux rêve, obtenir un doctorat. De 2006 à 2009, il essuya le refus de toutes les universités auxquelles il avait fait une demande d'admission. Grâce à la visibilité offerte par le Musée royal de l'Ontario, l'Université Concordia à Montréal lui donna la chance de s'inscrire au programme d'études personnalisées. Il saisit l'occasion et travailla très dur pendant 4 ans afin d'écrire une thèse examinant le problème de l'itinérance sous plusieurs angles. Sa thèse soutient notamment qu'il en coûterait moins cher à l'État de payer des logements aux personnes sans domicile fixe plutôt que de les laisser dans la rue. Pour que cette mesure soit efficace, les bénéficiaires devraient toutefois avoir accès à des soins de santé et à des services sociaux afin de faciliter leur réhabilitation. Si Eric Wiseman a pu mener à bien son projet d'étude, c'est grâce au soutien financier et à l'encadrement de l'Université Concordia. Remarquant son talent et son potentiel, celle-ci décida même de l'embaucher comme chercheur. Cet emploi lui permit, entre autres, de financer son doctorat. En 2014, sa thèse a remporté le prix d'excellence de l'Association canadienne pour les études supérieures. Ce prix couronnait un long parcours vers la guérison, de sans-abri à diplômé.
Ah ben, c'est une belle histoire.
Autre histoire, celle de Tania. C'est de Tania Saint-Arnaud. L'inébranlable optimiste, c'est un texte de Harold Gagné dans la même édition du Reader's Digest. Couverte de pansements, telle une momie dans son lit du service des grands brûlés de l'Hôtel-Dieu de Montréal, Tania Saint-Arnaud délire. Une semaine après avoir été aspergée d'un produit corrosif pour déboucher les tuyaux, la jeune femme sort d'un coma artificiel provoqué par ses médecins qui voulaient lui éviter de terribles souffrances. Brûlée sur 19 % de son corps, elle est confuse et agitée. Alors, souffrant d'un stress provoqué par l'agression et la gravité de ses blessures à la tête, au visage, au cou, au thorax et au bras, elle est mise sous sédation le temps des traitements. Une brûlure cesse d'évoluer après 72 heures. Louise Duranceau, chirurgienne plasticienne réputée, doit donc attendre avant de mesurer l'étendue des dégâts et de procéder à une première intervention chirurgicale sur les zones les plus touchées. Un peu plus d'une semaine après l'agression, elle entreprend la tâche délicate de prélever de fines couches de peau sur les cuisses et le dos de Tania pour les greffer sur ses bras, son thorax et son flanc gauche. Des lamelles de tissu cutané sont encore prélevées une semaine plus tard lors d'une autre intervention. 4 opérations au cuir chevelu seront également nécessaires au cours des mois suivants. Malgré ses craintes et ses angoisses, Tania veut être forte et réapprendre à marcher au plus vite. Dès qu'elle peut quitter le lit, elle se promène dans le corridor de l'hôpital, aidée des infirmières. Elle demeure ensuite 2 mois en rééducation à l'hôpital Villa Medica. Les physiothérapeutes et les ergothérapeutes multiplient les traitements pour assouplir la peau greffée et améliorer sa motricité. Elle avait évidemment survécu et elle a réussi à se réinsérer dans la vie. C'est le mot que je cherchais. Merci beaucoup, Serge. Oui. Et finalement, elle, je ne sais pas si elle s'est mariée, mais elle vit avec un homme. Et elle a eu un enfant. Elle a donné naissance à son fils Jacob. Et elle dit, « Quand les infirmières ont posé cet enfant sur moi, je n'avais plus aucune pensée négative en tête. C'était un instant magique qui prouve que la vie peut être belle si on y croit vraiment. Peu importe nos blessures et nos difficultés, mon fils est mon bonheur, mon petit miracle. Je lui raconterai un jour qu'il m'a aidé à guérir. » L'inébranlable optimiste, c'est ce qu'elle a. C'est ce qu'elle a.
Elle a réussi.
Elle a réussi. C'est Tania Saint-Arnaud. C'est dans le Reader's Digest du mois de mai.
C'est bon, c'est
alors,
bon.
Maintenant, j'affirme mon âge. Voilà quelques petits témoignages de personnalités médiatiques québécoises.
Elle y tient.
Oui, je tiens sur l'âge aujourd'hui. Jeannine Sutto, 94 ans.
Oh.
Mis à part mes 20 ans, j'ai aimé tous mes âges et je n'ai jamais été tentée de les camoufler. À 75 ans, je grimpais au mur. À 80 ans, j'ai fait un gros party d'anniversaire au Lion d'Or. Mes 94 ans sont plus lourds à porter, surtout depuis la disparition de ma fille Catherine. N'empêche, en 2012, j'étais de la tournée de Belle Sœur qui nous a conduits jusqu'à Paris après les représentations au Québec 3 ans d'affilée. J'ai encore des projets. J'ai des camarades de théâtre, ma famille et tout le monde connaît mon âge vénérable. Deuxième, Denis Bernard, 57 ans. Quand j'ai passé le cap de la cinquantaine, j'ai paniqué un peu, d'abord face à moi-même, puis face aux autres. Un de mes amis m'a alors dit combien j'étais privilégiée de bien vieillir. Il avait raison. Aujourd'hui, je ne voudrais plus revenir en arrière pour rien au monde. Et je n'ai aucun problème à dire mon âge. Ce qui ne m'a pas empêchée de me demander si j'avais vraiment le profil de l'emploi pour séduire la belle Hélène Florent dans la série télévisée La Galère. Les personnages que j'interprète ont de l'épaisseur et de la subtilité. Un autre atout de l'âge. J'essaye de mettre les chances de mon côté par l'exercice physique et une bonne alimentation. J'aime la vie. On m'annoncerait demain que j'ai le Parkinson, je ne demanderai pas à être euthanasié le surlendemain. Je vivrai mon Parkinson jusqu'au bout de ce que je pourrais endurer. Et tout comédien que je sois, je ne serai jamais gêné d'affirmer publiquement un jour mes 65 ou mes 80 ans. Béatrice Picard maintenant, 85 ans. Et oui, j'affirme mon âge, pourquoi le cacher ? Chaque âge a ses beautés. La curiosité de l'enfance, l'impatience de la jeunesse, la recherche du sens de la vie à la maturité. À 85 ans, je savoure pleinement tous les moments. Chaque jour m'apporte un petit bonheur. Serait-ce l'âge de la beauté du cœur ? Gilles Renaud, 70 ans. Je connais des gens qui, dans la jeune trentaine, refusaient déjà de dévoiler leur âge. J'ai toujours assumé le mien et ce n'est pas maintenant que je vais commencer à le cacher. D'autant qu'on me donne du monsieur et qu'on m'apporte une chaise sur les plateaux. Bien sûr, à 70 ans, j'ai moins de propositions de rôle qu'auparavant, mais j'ai plutôt l'air d'être dans la mi-soixantaine, alors on m'offre encore de beaux personnages. Je suis quand même assez fière de mes 70 ans. Il y a une certaine sagesse rattachée à ça. Une façon de voir l'existence. Il y a moins de stress, moins d'attente, donc moins de déception. Si j'avais eu cette philosophie à 20 ans, ça aurait changé ma vie. Louise Forestier, 71 ans. Oui, maintenant je ne cache pas mes 71 ans. J'ai menti pendant plusieurs années, oui. Dans la quarantaine, alors que je me rajeunissais d'un an. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que je fêterai mes 50 ans à 51 ans. Ça m'a fait de la peine. 50 ans est un âge symbolique. On ne joue pas avec les symboles. C'est comme un boomerang, une claque derrière la tête. Ça vient quand on ne s'y attend pas. Alors j'ai remis mon âge à l'heure avancée de l'Est. Se rajeunir, c'est comme avouer un échec sur l'accomplissement de sa vie. Comme si on n'avait pas assez de renommée aux yeux des autres. Pas assez de trophées sur le manteau de la cheminée. Pas assez de médailles au revers de ses vestes. Quand j'ai compris qu'au nombre des années s'accrochaient des expériences et des histoires que je ne pourrais pas partager sans me tromper dans les dates, ou que je me retrouverais en train de mentir pour camoufler un mensonge, ou encore que je me forcerais au silence de peur de me trahir, j'ai arrêté ce petit jeu enfantin et j'ai vieilli d'un an en riant très fort. Alain Crevier, 58 ans. Mes meilleurs amis sont dans la quarantaine et tout le monde connaît mon âge, aucun problème. Par contre, dans mon milieu de travail, les collègues dans la trentaine ne savent pas s'ils doivent ou non me tutoyer. Il s'est créé une distance qui n'existait pas il y a 10 ans. Tout à coup, ils réalisent que je suis là depuis 34 ans. Pour eux, je suis devenue une pièce de musée. J'ai été témoin de comportements odieux dans la foulée de la crise économique. Ainsi, j'ai entendu un jeune journaliste dire à quelqu'un de 60 ans « Pourquoi tu pars pas ? Tu me pompes l'air, 2 ou 3 personnes de ton âge ont la profession et nous, on n'a plus de job au Québec. J'en reviens pas. Ça ne m'est pas encore arrivé, je ne me considère plus comme jeune et je suis très à l'aise avec ça. Par contre, parfois, je me dis que si on me montrait la porte, mon âge serait sûrement un handicap pour postuler ailleurs ou me recycler, par exemple dans les technologies. Louise Portal, 65 ans. Me voir vieillir devant mon miroir et à l'écran demande une adaptation. La haute définition n'arrange pas les choses. Et pas question de Botox. J'ai la chance de ne pas avoir trop de rides. Alors, on est toujours surpris quand je dis que j'ai 65 ans. Comme actrice, je refuse de fausser les cartes par peur de rater telle ou telle offre. Bien sûr, on ne parle plus de premier rôle. Mais des rôles de second plan forts, comme celui de Maria dans Les Loups, sont une source d'énergie. Ce qui est différent, c'est que je dois m'adapter aussi au fait que les jeunes générations ne connaissent aucun de mes films et des séries télévisées dans lesquelles j'ai joué au cours de mes 45 ans de carrière. Ce n'est plus comme avant. Alors que partout où j'allais, le public venait à ma rencontre, dans les restos, on me servait avec déférence. Aujourd'hui, au resto et à l'épicerie, les gens saluent plutôt quelqu'un qui est passé à La Voix ou Star Academy. C'est ça la réalité médiatique. Mais j'accueille mon âge dans sa différence, dont les atouts sont une délivrance et non plus une contrainte aux exigences de la beauté.
La gloire serait-elle éphémère?
Eh oui. Et voilà, c'était « J'affirme mon âge », propos recueilli par Julie Stanton dans « Le bel âge » de juin 2015.
C'est quand tu souris que je sais que je vis pour plus que des chansons folles.
Eh bien, je vais vous parler d'un dossier, qui n'est pas un dossier de chaise, non. qui est dans la revue L'Itinéraire. On va parler de « C'est pas mon genre », un dossier délicat.
Ah!
Ouais, pour le moins qu'on puisse dire. « Viens-t'en, mon petit gars ». C'était écrit par un Nafi Alibert. À 5 ans, Liane n'aime pas que sa mère Nadine l'appelle comme ça.
Si elle sait aujourd'hui que sa maman la taquine, il y a quelque temps encore, cela l'aurait plongée dans une colère noire. Ah ah! Un samedi après-midi, l'itinéraire a fait connaissance de Liane, une petite fille qui habite avec sa mère à Gatineau. Coquette jusqu'au bout des doigts, elle s'est faite toute belle avec sa tunique parsemée de nœuds orangés, sa couette tressée dans les cheveux, ses petites boucles d'oreilles en forme de fleurs et son vernis aux ongles. Il est rose, c'est ma couleur préférée, lance-t-elle en montrant ses petites mains délicates. De Liam à en Liane. Il y a 11 mois à peine, ce n'est pas Liane qui nous aurait accueillis, mais un garçon nommé Liam Gérard. Je n'aime pas qu'on m'appelle par mon ancien prénom. Ça me fait de la peine et ça m'énerve. À vous, Liane. Haute comme 3 pommes, elle fait preuve d'une maturité déconcertante quand elle raconte que dans son cœur et dans son esprit, elle a toujours été une fille, bien qu'elle soit née dans le corps d'un garçon. Dès son plus jeune âge, elle s'amuse à se déguiser en sirène et noue ses collants en queue de cheval sur sa tête pour simuler la longue chevelure de Princesse Réponse, une de ses héroïnes préférées. Elle se barricadait dans son monde et passait son temps à se déguiser en fille, indique Nadine, sa mère. Liane annonce pour la première fois à son père qu'elle est dans le mauvais corps à l'âge de 3 ans. Spécial, hein? Bien que cela puisse paraître jeune, les recherches montrent clairement que l'identité de ce genre commence à se développer à cet âge-là, affirme Annie Pullen sans façon, professeur à l'École de services social de l'Université de Montréal et auteur de plusieurs publications sur les jeunes transgenres. Loin de se douter de la souffrance qui ronge leur enfant, les parents de Liane pensent qu'il ne s'agit que d'une lubie. Pourtant, de naissance, elle avait un drôle de comportement. On sentait un inconfort avec beaucoup de pleurs et d'agressivité. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, se souvient Nadine. Dans sa petite enfance, elle se fait systématiquement renvoyer des garderies à cause de ses accès de violence dirigés principalement envers les filles. Des psychoéducateurs en médecins spécialistes, on lui cherche un diagnostic, mais personne ne comprenait ce qu'elle avait. Elle avait juste un problème de comportement, donc ils l'ont médicamentée, raconte Nadine. Et 3 mois avant son 5e anniversaire, Liane finit par formuler « On ne peut plus clairement ce qui ne va pas ».« Tu as dit à mamie que tu voulais être une fille ?» tente Nadine pour faire parler sa fille. « Non, je lui ai dit que je voulais couper mon pénis pour que l'on me mette une vulve », martèle la petite fille. Spécial, 5 ans. C'était en juin 2014. Liane allait commencer à aller à l'école en septembre. On a pris des actions tout de suite en parlant à la direction, en se disant que c'était son choix d'être comme ça. Et ils ont très bien accepté cela. Elle va à la toilette des filles sans problème, se réjouit Nadine. Alléluia Internet! Direction Saint-Lambert, où nous attendent Johnny et Céline. Il y a certaines personnes qui préfèrent passer inaperçues et d'autres qui aiment raconter leurs histoires. Moi, c'est un peu des deux. Ça ne me tente pas de répondre aux questions du monde systématiquement, précise Johnny, pour expliquer pourquoi il a préféré garder l'anonymat. À 19 ans, Johnny a passé la majorité de sa vie dans la peau d'une fille avant de commencer sa transition à l'adolescence. J'ai fait mon coming out il y a 2 ans et demi et ça m'a pris longtemps car je n'étais pas assez mature pour me poser ce genre de questions avant, raconte-t-il, d'une voix grave et virile, qui, comme les poils qui se sont développés sur son visage, ne laisserait pas penser qu'il soit en réalité né dans un corps féminin. Ça a été un choc, parce qu'il n'y avait eu aucun signe. Je l'aime tellement que j'ai continué à l'aimer tel qu'il est et je l'ai appuyé dans ses démarches, confie Céline, en se souvenant de sa réaction après avoir lu la lettre que Johnny lui avait laissée. Comme pour Liane et Nadine, c'est Internet qui leur a permis de comprendre la situation et de se rapprocher des rares ressources disponibles pour les jeunes trans, soit la clinique de développement du genre dirigée par le Dr Chou Vaugoche et l'Association Enfants Transgenres Canada.
Hein, on ne savait pas ça, mais ça existe. Et pour les médecins, la personne la mieux placée pour confirmer la transidentité, c'est le jeune en question. Mais quant à eux, il n'y avait pas de doute, précise Céline. C'est spécial, hein? Et il va falloir attendre quelques années, mais la nouvelle loi prévoit d'attendre 2 ans après la majorité pour obtenir un changement de mention de sexe. Or, les enfants trans vivent eux aussi à temps plein leur identité dès l'âge où ils effectuent leur transition, qui arrive en moyenne autour de 10 ans, déplore-t-elle. Malgré tout, Liane et Johnny sont aujourd'hui 2 transgenres épanouis dans leur nouvelle apparence, au point où même, à la fin de l'entretien, Johnny refuse de nous dire quel était son ancien prénom. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. Merci.
Alors, quelques brèves. Connaissez-vous la mâche?
Quoi?
Cette douce, la mâche, cette douce salade, très prisée en Europe, gagne tranquillement le cœur des Québécois. On aime sa tendreté et le fait qu'elle est très digeste, même pour les colons fragiles. On en trouve maintenant à l'année grâce à l'hydrocerre Mirabel, qui nous offre une jolie mâche accompagnée de julienne de betterave. J'aime l'aromatiser avec une huile de noix et un vinaigre de xérès. Il suffit d'y ajouter un croûton de pain et un fromage de chèvre pour en faire une salade repas. Une belle trouvaille de printemps.
Mm-hmm.
La mâche.
Ben, dis donc. Alors, saviez-vous que la prison est un incubateur d'extrémistes? L'Occident ferait face à un nouvel ennemi, les prisonniers aux idées extrémistes. En réponse aux attentats de Paris, où 2 des 3 personnes responsables auraient été radicalisées en prison, plusieurs pays ont sonné l'alarme sur cette nouvelle menace. Et selon les experts du service correctionnel du Canada, les prisons sont un terrain propice à la diffusion du radicalisme violent, même s'il n'existe aucune preuve que les prisonniers d'ici en soient victimes. Alors que plusieurs blâment l'islam fondamentaliste comme la source de ce danger, personne ne semble considérer que le traitement des prisonniers par le système correctionnel soit en cause.
Continuons sur les prisons. La peine de mort, une sentence en déclin. 607, c'est le nombre de condamnés à mort qui ont été exécutés dans le monde en 2014. Selon Amnesty International, c'est 22 % de moins que l'année précédente. 19 094. Fin 2014, 19 094 détenus se trouvaient sous le coup d'une condamnation à mort, dont au moins 14 avaient moins de 18 ans. 22, c'est le nombre de pays qui ont exécuté des prisonniers l'an dernier, soit 2 fois moins qu'il y a 20 ans. En tête pour les exécutions, la Chine, suivie de l'Iran, de l'Arabie saoudite, de l'Irak et des États-Unis.
Maintenant, encore dans l'alimentation. Au Québec, on a l'habitude de consommer trop de glucides. Pâte, pain, riz, biscuits, barre tendre. Il faut limiter notre consommation quotidienne à l'équivalent de 4 à 6 produits céréaliers par jour, tout en faisant une large place aux légumes, aux légumineuses et aux poissons. Ainsi, non seulement on perdra quelques kilos, mais on maintiendra notre nouveau poids plus facilement. Alors, une portion de produits céréaliers, c'est une tranche de pain, un demi-pita moyen, 3/4 de tasse de céréales froides, une demi-tasse de couscous, riz, pâtes, quinoa et 2 craquelins de seigle.
Ah, c'est bon ça.
Voilà.
Alors, du temps gratuit, connaissez-vous ça, le bénévolat, Roger? Ça vous dit quelque chose?
Oui.
Alors, les Québécois font une fois de plus mauvaise figure en ce qui a trait à leur générosité.
Regardons ça.
Ouais. Selon la dernière étude de Statistique Canada, seulement 1/3, 32 % de la population active du Québec a donné du temps comme bénévole en 2013. En comparaison, la moyenne canadienne est plutôt de 44 %. Et la province arrive aussi au dernier rang en nombre d'heures allouées aux œuvres de bienfaisance et au montant total des dons. Et plusieurs hypothèses ont été soulevées pour expliquer cette situation, notamment le déclin de l'influence religieuse au Québec et le revenu inférieur des ménages comparé aux autres provinces.
Il faut que ça change.
Oui, monsieur.
Oui, bon. C'était le Kiosque Magazine que nous avions vous proposé en ce 1er juin.
Oui,
pas le 1er mai aujourd'hui.
Je l'avais eu.
Bon, c'est ça, je l'ai eu.
C'est bon.
Elle a.
Bon, alors, c'était Francelyne Neuviard qui était là.
Oui, Serge Hamelin.
Serge Hamelin et Roger Roy, ainsi que Mathieu Tessier en régie, qui nous a guidés pendant l'heure qui vient de s'écouler. Et nous vous disons donc...
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Oui, j'ai hâte.
Oui.